Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode au Bistro Matavox. La semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Au cours des dernières années, le Luxembourg a renforcé son dispositif d'accompagnement des élèves, y compris pour les enfants à besoins éducatifs spécifiques. On en parle avec notre journaliste Yolaine Lebras, qui est allée à la rencontre d'enseignantes, de parents et de syndicats. Bonjour Yolaine.
Bonjour Maria, bonjour à tout le monde.
Yolaine, au Luxembourg, les enfants, les élèves à besoins éducatifs spécifiques peuvent souvent être accompagnés dans leur parcours scolaire. Le but, c'est de renforcer l'inclusion dans l'enseignement. Généralement, quelle est la situation sur le terrain en ce moment? Quel est le nombre d'élèves à besoins éducatifs spécifiques, par exemple?
Alors, d'abord, il faut préciser qu'on ne dispose pas d'un chiffre unique qui permettrait de dire il y a tel élève a besoin éducatifs spécifiques au Luxembourg. Et aussi rappeler que le dispositif concerne des situations très diverses. Donc, il y a des troubles de l'apprentissage, de l'attention, le handicap, le trouble du spectre de l'autisme, les difficultés socio-émotionnelles. Donc, il y a plein de choses. Mais par contre, s'il n'y a pas de chiffre unique sur les élèves à besoins éducatifs spécifiques, on remarque par exemple que le nombre d'élèves accompagnés a augmenté. Les équipes ESEB, donc c'est les équipes de soutien des élèves à besoins spécifiques, elles accompagnent un peu plus de 700 élèves sur la période 2019-2020 et elles en accompagnent près de 4000 en 2022-2023.
Donc il s'agit d'un chiffre qui a plus de triplé, plus que triplé.
Oui, c'est ça. Mais donc derrière ces chiffres, il y a quand même une réalité un peu contrastée. Car voilà, le Luxembourg a beaucoup développé son dispositif d'inclusion. Mais les personnes que j'ai pu interroger, donc les enseignants, les parents, les syndicats, décrivent encore des difficultés avec des délais longs et des absences du personnel, difficiles à remplacer. Donc voilà, la situation reste encore complexe.
Tu viens de mentionner le gouvernement ne pas rester les bras croisés. En 2017, il avait lancé une réforme et en mars dernier, le ministère de l'Éducation a encore présenté un plan d'action national pour renforcer l'inclusion dans l'enseignement fondamental. Quel est l'impact de ce plan d'action national? Qu'est-ce qui a changé pour les enfants, pour les parents, les enseignants?
Oui, depuis 2017, le système il a été profondément réorganisé. Donc, avec notamment les équipes ESEB, celle qui aide les élèves à besoins spécifiques. Il y a eu plus d'instituteurs, institutrices spécialisées et plus d'assistants et d'assistantes spécialisées aussi. Donc, le nombre d'agents, pareil, il a quasiment triplé entre 2017 et 2025. Mais donc, au-delà du nombre d'agents, l'objectif, c'est d'accompagner les élèves directement dans les écoles ordinaires justement plutôt que de les orienter vers des structures spécialisées. Mais donc voilà, l'augmentation du personnel, ça ne signifie pas que les difficultés ont disparu. Et même le ministère reconnaît que les besoins ont augmenté. Donc dans leur complexité, leur nombre, leur complexité. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un nouveau plan d'action présenté en mars 2026 et qui cherche justement à répondre à ces difficultés. Donc avec davantage de personnel encore, une meilleure coordination, et des mesures aussi pour intervenir plus rapidement en cas de crise, par exemple.
Même après la présentation de ce plan, de ce nouveau plan d'action nationale, les critiques, elles persistent. Pourquoi?
Oui, ça peut paraître un peu paradoxal. Il y a les moyens qui ont fortement augmenté, mais les besoins qui continuent d'augmenter, en fait, et qui augmentent plus vite. Donc, même l'Observatoire national de l'enfance, il souligne aussi la complexité croissante par rapport au profil des élèves et les difficultés liées aux ressources. Et donc, les critiques, elles persistent parce que les gens que j'ai interrogés, ils parlent encore de personnes qui ne sont pas remplacées. Et c'est la situation très compliquée quand un éducateur ou une éducatrice est absente. Si elle n'est pas remplacée immédiatement, tout de suite, ça crée des situations compliquées. Donc, la question, ce n'est pas seulement suffisamment de personnel, mais c'est aussi est-ce que ce personnel il est disponible pour intervenir au bon moment, au bon endroit et avec suffisamment de souplesse.
Justement, le ministère Le plan d'action du ministère ne prévoit-il pas la mise en place d'une réserve de suppléantes, justement pour pouvoir mieux assurer les remplacements?
Oui, ça, voilà, le syndicat le salue cette mesure. Par contre, ça ne règle qu'une partie du problème, puisque c'est un autre problème qui revient beaucoup dans les témoignages, c'est aussi les délais et la complexité des procédures. Parce que lorsqu'un besoin est identifié, ensuite, il y a beaucoup d'étapes avant qu'une aide soit adaptée. Donc, il faut aussi coordonner tous les acteurs autour de l'enfant. Et donc, ce que souligne le syndicat, c'est que il y a 8 centres de compétences au Luxembourg, avec chacun leur spécialisation. Et le problème, c'est que parfois, ils se renvoient un petit peu l'enfant. Il y a un centre qui dit « notre centre n'est pas capable d'aider cet enfant ». C'est plutôt au centre qui traite ce type de problème. Et ils se renvoient l'enfant. Et donc, c'est des situations qui peuvent durer très longtemps. Donc déjà, oui, le diagnostic est long. Et ensuite, donc, voilà, il y a tous ces problèmes. Et le gouvernement, il veut améliorer cette coordination. Et donc, dans le plan annoncé en mars, il a notamment annoncé des comités locaux pour réunir tous ces acteurs autour des situations individuelles. Sauf que les syndicats ont peur que ça crée encore une couche à ce système qui est déjà complexe. Et donc, pour eux, ils insistent pour que les comités, ils ne soient pas seulement là pour discuter et faire des propositions, mais pour qu'eux-mêmes, ils puissent aussi prendre des décisions.
Des décisions concernant
directement l'enfant, c'est ça. Donc en fait, c'est bien, c'est une bonne idée de créer une nouvelle structure, mais il faut surtout que la réponse arrive plus rapidement auprès de l'enfant.
Et là, quand on lit ton article, il y a aussi une autre question qui se pose au-delà des difficultés que relèvent les acteurs sur le terrain, donc concernant l'augmentation des moyens, le manque de personnel quand même, les délais, la coordination encore imparfaite entre les différents centres et les différentes institutions. Mais il y a aussi la question qui se pose concernant l'inclusion scolaire en soi, le terme. Qu'est-ce qu'on entend exactement par le terme inclusion ?
Oui, c'est ça, c'est un peu au centre de l'article, en fait. C'est, oui, qu'est-ce qu'on entend par ce terme ? Et en fait, selon les personnes que j'ai interrogées, c'est vrai que chacun avait un peu sa définition. Donc, pour l'association, par exemple, donc ZEFI, Sesame für Inclusion, pour cette association, l'inclusion, c'est vraiment transformer l'école ordinaire pour qu'elle puisse accueillir toute la diversité des élèves, donc avec davantage de personnel, un personnel formé, voilà, vraiment s'adapter à l'élève, avec par exemple aussi deux professionnels dans une même classe, qui créent un petit peu deux groupes, on va dire, donc un groupe ordinaire, entre guillemets. Donc voilà, des systèmes comme ça. Oui, donc pour eux, l'inclusion, c'est pas un élève avec un assistant dans la classe, donc juste la présence physique de l'élève, voilà, pour eux, c'est pas ça l'inclusion. Mais par exemple, pour les syndicats, pour eux, c'est pas l'inclusion dans la classe ordinaire à tout prix. Pour certains enfants, ils insistent sur le fait qu'un centre de compétences, c'est parfois le meilleur cadre, en tout cas à ce moment-là, pour l'enfant, qui répond vraiment à ses besoins. Et voilà, donc pour eux, être envoyé vers une structure spécialisée, c'est pas un échec de l'inclusion, c'est aussi l'inclusion. Et voilà, il y a un petit peu des points de vue entre les deux. Donc, par exemple, Paula Tacros, que j'interroge dans l'article aussi, qui est enseignante et elle-même mère d'un enfant autiste, elle est un peu entre ces deux positions, puisqu'elle trouve que voilà, son fils est vraiment épanoui dans un centre de compétences. Et d'un autre côté, elle pense que pour certains enfants, en insistant sur la formation du personnel, ils peuvent aussi s'intégrer dans les classes ordinaires. Donc voilà, donc l'essentiel, c'est que l'enfant soit dans un cadre qui lui permet vraiment d'apprendre, de s'épanouir, de progresser. Voilà, c'est pas seulement une question de lieu, mais aussi de moyens et de conditions.
Et de prêter attention à chaque enfant et à leurs besoins qui sont évidemment spécifiques à chaque élève. Merci beaucoup, Yolène. Vous pouvez retrouver l'article et l'analyse de Yolène dans votre exemplaire du journal qui est sorti aujourd'hui ou sur vox.lu. N'hésitez pas à nous abonner ou à nous soutenir avec un don. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous soutenir. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Dat wäret fir des Episode vun Am Bistro mat der Vox. Dese Podcast gëtt produzéiert vun der Wochenzeitung Vox an ze summen erbecht mam Radio Ara. Musik kënnt vun Throw an steet ënner enger Creative Commons Lizenz. Dir fand Am Bistro mat der Vox op dene gängegen Podcasting-Plattformen an op vox.lu. Pabaya Vox fand ihr auf Freiden um Kiosk.